Radio France Internationale. Il est 10h en temps universel, 11h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Israël poursuit ses bombardements sur le Liban. 5 morts encore ce matin à tir sur la côte méditerranéenne. Et dans ce journal, reportage dans une localité quasiment vidée de ses habitants qui ont fui les bombardements. France-Maroc, la réconciliation. Le président Emmanuel Macron entame cet après-midi une visite d'État de 3 jours dans le royaume marocain. Et puis à Paris, cet après-midi, le début du procès Depardieu, Gérard Depardieu. C'est le premier procès intenté à l'acteur français accusé d'agression sexuelle. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez 8 milliards de voisins. Et cette question, quel est notre rapport à l'argent ? Les bombardements sans fin de l'armée israélienne sur le Liban, 5 morts et 10 blessés selon un bilan publié par le gouvernement libanais après une frappe de l'armée israélienne ce matin sur le centre-ville de Tyr dans le sud du Liban au bord de la Méditerranée. Face à ces bombardements répétés, en particulier sur le sud Liban, beaucoup d'habitants ont tout quitté, des villes entières sans personne ou presque. Et c'est le cas par exemple de Nabatieh, à une quinzaine de kilomètres de la frontière entre le Liban et Israël. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre-Olivier et Jeannelle Coury.
Dans les rues désertes de Nabatieh, des dizaines d'immeubles ne sont plus que des tas de gravats. Sur les 80 000 habitants que compte cette localité, il n'en resterait que 4 000. C'est au cimetière que nous rencontrons les premiers d'entre eux. Une famille entière y est enterrée. Cet homme dit être le seul survivant.
10 minutes après que j'ai quitté les lieux, une frappe israélienne les a touchés. Tout le monde est mort. Il y avait 2 maisons. Dans la première, il y avait 9 personnes. Dans la deuxième, il y en avait 4. Ce sont tous mes cousins. On est de la même famille.
À ses côtés, quelques volontaires portent les corps.
Les gens qui restent sont ceux qui ne peuvent pas partir. Les personnes âgées, celles qui n'ont pas de famille chez qui aller. Moi, je suis bénévole, j'aide, et c'est ce qui me motive à rester.
À l'hôpital public, jusqu'à présent épargné par les frappes, le docteur Ouazini a installé un petit matelas. Il habite dans son bureau.
Je suis directeur de l'hôpital, je suis médecin. Il faut être là avec mon peuple, c'est notre devoir.
Pendant notre tournage, le quartier est de la ville a été bombardé. Presque tous les jours, Israël cible cette localité. Jeannelle Coury, Pierre-Olivier, Nabatieh, RFI.
Après l'attaque israélienne de samedi sur l'Iran, on apprend qu'un civil a été tué. Téhéran a réclamé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devrait avoir lieu aujourd'hui. Téhéran qui menace d'une riposte ferme. Nous utilisons tous les moyens disponibles. Des frappes israéliennes, il y en a eu aussi sur la bande de Gaza ces dernières heures. Alors que le président égyptien hier a mis sur la table un projet, une proposition de trêve de 2 jours pour permettre la libération de 4 otages détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Alors que peut faire d'ailleurs la diplomatie dans cette guerre que rien ne semble arrêter ? On se pose la question à l'occasion de la visite d'État à partir d'aujourd'hui du président français Emmanuel Macron. Au Maroc, la France tente de faire entendre sa voix au Proche-Orient, alors que le roi du Maroc, Mohamed VI, est le président du comité Al-Quds, censé défendre l'identité arabo-musulmane de Jérusalem. Les voix de Mohamed VI et d'Emmanuel Macron peuvent-elles peser ? Réponse de Youssef Chieb, spécialiste de géopolitique du monde arabe. Il est le directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement.
Il y a 2 cartes dont dispose l'un et l'autre pour ce qui est du Maroc. La relation privilégiée entre le Maroc et Israël, comme vous le savez, le Maroc a normalisé ses relations avec l'État hébreu depuis 2020. Le Maroc peut faire jouer une forme de médiation ou à minima l'introduction des aides humanitaires. Pour ce qui est de la France, le Liban a une part particulière dans la politique étrangère historiquement de la France. Donc la France, il peut jouer sur le volet diplomatique. En preuve, il est le président Macron a récolté 1 milliard de dollars pour la reconstruction du Liban. Mais je reste quand même très dubitatif sur le rôle de l'un comme de l'autre, c'est-à-dire le Maroc et la France, compte tenu de la complexité du problème.
Le chercheur Youssef Chieb au micro de François Ferkatadji. Il est 11h05 à Paris. La lutte contre le réchauffement climatique au point mort, avec même un record d'émissions de gaz à effet de serre l'an passé, en 2023, selon un chiffre publié tout à l'heure par les Nations Unies. À 2 semaines de la COP29, le sommet mondial contre la crise climatique, l'ONU se montre très pessimiste pour que soit respecté l'objectif de l'accord de Paris, limité à 1,5 degré la hausse des températures sur la planète. Les engagements des pays partout dans le monde ne permettent aujourd'hui que de diminuer, d'ici 2030, de 2,6% les émissions de gaz à effet de serre, alors que l'objectif avait été fixé à 43%. Une réaction de la Russie après les législatives en Géorgie et les accusations d'ingérence russe dans ce scrutin, accusation formulée par le bloc occidental, notamment par l'Union européenne. Le Kremlin vient de rejeter fermement ces accusations. Des législatives, il y en avait aussi en Bulgarie, et c'est le parti de l'ancien Premier ministre Boyko Borissov qui remporte le scrutin avec plus de 26% des voix, un taux de participation très faible, cela dit, moins de 38% de participation. Correspondance à Sofia de Damien Vodenicharov.
Après l'annonce des résultats préliminaires, Boyko Borissov s'est engagé à former un gouvernement sans préciser qui serait aux manettes. Se disant ouvert au compromis, il a toutefois mis en garde ses alliés récalcitrants. Nous continuons le changement.
Dès aujourd'hui, certains se sont mis à poser leurs conditions. Et sur les plateaux de télé, ils annoncent avec des voix tremblantes que le grand gagnant de ces élections doit se plier aux demandes de ceux qui ont deux fois moins de voix. Ce n'est pas beau à voir et ce n'est pas juste.
Boyko Borissov n'exclut d'alliance avec personne, sauf l'extrême droite pro-russe de Renaissance, dont les valeurs sont incompatibles avec celles de son parti. Pourtant, toute alliance dépend des résultats officiels.
Le Parlement, c'est des maths. Le nombre de partis est très important. J'ai toujours dit qu'il faut un seuil plus élevé. Avec le seuil de 4% actuel, il peut y avoir tous ces partis au Parlement. Si c'est le cas, je sais dès maintenant qu'il n'y aura pas de gouvernement.
Au cas où 9 partis obtiendraient des sièges, il faudrait une coalition à 4 pour former une majorité et élire un gouvernement. Autant dire que la tâche relève de l'impossible, surtout lorsque les partis sont en campagne électorale permanente en raison des élections trop fréquentes. Damien Vodenicharov, Sofia, RFI.
Le procès Depardieu commence à Paris en début d'après-midi, mais sans Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle qui aurait été commise sur le tournage d'un film en 2021 sur deux femmes. Les médecins, a annoncé tout à l'heure son avocat, interdisent à Gérard Depardieu d'assister au début de ce procès. Alors au-delà de ce procès, on se pose la question, est-ce que le regard est en train de changer, notamment vis-à-vis des hommes célèbres? Réponse de Cécile Timoreau, secrétaire générale de MeToo Media.
En fait, on espère que ça évolue. Nous, on fait tout pour, parce que jusqu'à maintenant, il y a un très très faible pourcentage des viols qui sont jugés et punis. Donc nous, à MeToo Media, on s'est constitué pour ça, en se disant c'est pas possible, ça fait des années que des femmes individuellement, de leur côté, portent plainte, ont vécu des choses terribles, parce que nous on les voit ces femmes et on voit dans quel état elles sont. On n'a aucun doute hein, sur ce qu'elles ont vécu, parce que psychologiquement ça laisse des traces. Et on se dit mais c'est pas possible, en fait c'est une justice d'hommes, puisque les femmes n'ont pas droit à cette justice pour les violences sexistes et sexuelles. Et puis je rappelle quand même que lundi, c'est le premier procès de Depardieu pour l'agression sexuelle de deux femmes en 2021, mais il en avait agressé une autre qui a déposé plainte en 2014, et puis Charlotte Arnoux, qui est la première à avoir osé porter plainte pour viol, ensuite la journaliste et écrivaine espagnole qui elle l'accuse également de viol en 95. Donc en fait ça commence à faire une sacrée liste pour Monsieur Depardieu.
Cécile Timoreau de MeToo Media avec Frédéric Genot.